Il y a des films qui marquent l'histoire. Le film que nous allons aborder aujourd'hui est un monstre sacré du cinéma français, voire même du cinéma mondial. Une œuvre monumentale qui s'étend sur près de 7 heures, ce film est l'une des dernières superproductions à la française. Il aura nécessité un tournage étalé sur 2 ans, 450 000 mètres de pellicule impressionnés par 18 appareils. Le montage a nécessité plus d'un an de travail. Il compte plus d'une vingtaine de versions différentes. Et les restaurations ne manquent pas pour ce film, et pourtant une seule restauration est toujours en cours depuis 2008 par la Cinémathèque française. Nous allons donc parler du super film Napoléon par le réalisateur de génie Abel Gance. C'est parti, allons-y.
Des étoiles, présenté par Erwan Moreau.
Ce film, vous l'aurez compris, est une œuvre exceptionnelle et emblématique à plus d'un titre. Nous allons voir que le Napoléon d'Abel Gance est une œuvre particulière. Réalisé entre 1925 et 1927, le film devait être le premier d'une série de 8 films. Il en est autrement puisqu'il est le seul à avoir vu le jour. Le film retrace la jeunesse de Napoléon, interprété ici par Albert Dieudonné, merveilleux acteur dans ce film par ailleurs. Le film connut beaucoup de changements, à commencer par Gance lui-même, qui modifia sans cesse le montage de son film. À commencer par avril 1927, avec la présentation de gala à l'Opéra de Paris, dans une version de 5200 mètres, soit 3h47, teintée et virée, avec triptyque, c'est la version dite opéra. En mai 1927, il y a la projection pour les distributeurs, puis la presse au cinéma Apollo. C'est un métrage de 13 261 mètres, sans triptyque, soit environ 9h30. C'est la version dite Apollo. En novembre 1927, Gance réduit la version Apollo à environ 7 heures. C'est la grande version avec triptyque, et c'est cette version-là qui a été envoyée à la MGM pour la distribution internationale. Cette version fut réduite à 88 minutes sans triptyque. De mai 1934 à janvier 1935, Abel Gance décide de sonoriser son film muet. Il tourne de nouvelles scènes, post-synchronise les parties muettes et fait un nouveau montage. Ce nouveau film s'intitule Napoléon Bonaparte. Son métrage est de 3850 mètres, soit 2h20. Sorti le 11 mai 1935 au cinéma Paramount, c'est lors de la production de cette version que les négatifs retaillés de 1927 furent perdus. En décembre 1968, Abel Gance entreprend une nouvelle sonorisation de son film avec, comme en 1934, une nouvelle post-synchronisation, de nouveaux plans tournés, un nouveau montage. Ceci donne donc un troisième film intitulé Bonaparte et la Révolution en 1971. C'est un métrage de 7544 mètres, soit une durée intégrale de 4h35 à 24 images par seconde. Nous en sommes donc, au travers des seules interventions de Gance, à trois films différents, ceux de 1927, 1935 et 1971, et donc pour le film de 1927, à deux négatifs différents, sans compter le remontage donc pour certaines versions étrangères, et celles en pâté rural et en pâté baby. Mentionnons encore deux remaniements, toujours effectués par Gance. Vers 1947, Gance aurait tourné plusieurs plans d'illustration picturale et commence une version modifiée du Napoléon Bonaparte, sans suite. Le 23 février 1955, reprise au studio 28 du Napoléon Bonaparte de 1935, dans une version remaniée avec triptyque final. Viennent ensuite les différentes restaurations. Dès 1953, Marie Epstein et Henri Langlois établissent une version en 19 bobines du Napoléon de 1927. Cette version dite « copie musée » sera perfectionnée jusqu'en 1965. Entre 1969 et 1982, Kevin Brownlow effectue une première restauration. Il en vient à une version de 4h50, soit 6630 mètres. Cette restauration est montrée successivement à différentes étapes, notamment à Londres, d'octobre 1970 à novembre 1980, avec le concours de la BFI. La véritable première eut lieu à Tellury, dans le Colorado, le 1er septembre 1979. En 1983, Kevin Brownlow réalise sa deuxième restauration, 7155 mètres, soit 5h13, toujours avec la BFI, mais aussi avec la Cinémathèque française qui lui ouvre pour la première fois les portes de ses collections. Elle est présentée au Havre en novembre 1982 et à Paris au Palais des Congrès en juillet 1983. De 1991 à 1992, Bambi Ballard, grâce à de nouveaux éléments qu'elle avait découverts, entreprend pour le compte de la Cinémathèque française une restauration basée sur celle de Kevin Brownlow en 83 et parvient à une version de 7500 mètres, soit 5h28. Cette restauration est présentée sous la Grande Arche de la Défense en juillet 92. En 2000, Kevin Brownlow termine sa troisième et dernière restauration du film avec réintroduction des teintages et virages, reprenant les nouveaux éléments découverts par Bambi Ballard dans la restauration précédente et aboutit à une durée à peu près identique. Présenté à Londres en juin 2000, sa durée est d'environ 5h30 pour un métrage de 7542 mètres. Pour l'établissement de cette restauration, l'ensemble des éléments connus de Napoléon à la Cinémathèque française, y compris la copie de travail de 91, furent envoyés à Kevin Brownlow. En tout, à ce jour, ce sont donc 22 versions du film qui ont été répertoriées, sans compter celles établies dans les pays d'Europe centrale et surtout les nombreuses mutilations des distributeurs. Toutes ces restaurations nous amènent à nous intéresser à cette nouvelle restauration toujours en cours par la Cinémathèque française. La fusion en 2007 entre la Cinémathèque française et la Bibliothèque du film a permis de réunir en une seule entité les collections films et non-film, donc affiches, photos, dessins, archives. Et Claude Lafaille, exécuteur testamentaire de Gans, fait don à la BNF en 95 de toutes les archives personnelles de Gans qu'il a récupérées au décès du réalisateur. Et donc, la BNF rend accessibles toutes ces archives à partir de 2000. Grâce au travail de Delphine Varin, documentaliste à la Cinémathèque française, qui a passé 8 ans au traitement du fonds Abel Gans, détenu par la Cinémathèque française, et qui a donc permis de rendre accessibles les archives de la Cinémathèque en 2010. Aucun des précédents restaurateurs n'avait eu donc accès à toutes ces archives. Le moment semblait donc venu de conduire l'expertise sur l'un des fonds les plus emblématiques du cinéma français. La tâche s'annonçait d'ampleur car les fichiers ne recensaient pas moins de 250 boîtes de films correspondant ou semblant correspondre aux films de Gans. C'est alors que le nom de Georges Mourier, pour aider la Cinémathèque dans cette tâche, s'imposa rapidement. Familier de l'œuvre de Gans, auquel il a consacré une part importante de ses travaux dès ses études cinématographiques, il est par ailleurs un ami personnel de Clarice Gans, fille du réalisateur, et de Claude Lafaille, exécuteur testamentaire d'Abel Gans. Il a collaboré avec Bambi Ballard à la restauration du film pour le compte de la Cinémathèque française, au début des années 90. Il est aussi réalisateur, il a donc tourné entre autres un documentaire consacré à Gans, intitulé « À l'ombre des grands chênes », sorti en 2005, et il poursuit ses recherches à partir des collections de la Cinémathèque, travaillant en 2007 sur l'une des nombreuses inventions techniques de Gans, le pictographe. Il dirige donc depuis 2008 la mission d'expertise et la restauration du Napoléon pour la Cinémathèque française. Georges Mourier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission consacrée à la comète Napoléon, pour reprendre vos termes.
Je vous en prie, c'est un très grand plaisir.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une restauration de film ?
Alors, je vais essayer de ne pas faire un roman fleuve. La restauration d'un film, en fait, la restauration d'un film, surtout pour le Napoléon, nous nous sommes aperçus que les questions d'éthique étaient pour ainsi dire les mêmes que celles qui existent déjà dans les Beaux-Arts. C'est-à-dire, quel est l'état dans lequel on doit reconstruire ou restaurer un édifice, une peinture, même s'il y a eu des modifications. Il a existé, je crois, en 1966, je crois qu'il existe une charte de Venise, dite de Venise, qui fixe pour les bâtiments architecturaux, quels sont justement les critères. Parce que ce n'est pas parce que vous voulez restaurer que chaque époque n'a pas ses propres critères de restauration. Viollet-le-Duc a été un très grand précurseur, mais il voulait restaurer les œuvres et les bâtiments dans un état qui était plus proche de l'idée de l'architecte que certaines fois de ce que le bâtiment avait déjà été. Comme il a été un des premiers à défendre la notion du patrimoine, on ne va pas le critiquer avec les préceptes d'aujourd'hui. Mais ils ont énormément évolué. Revenons dans le cas d'un film. Le cas d'un film est aussi le cas du Napoléon. Puisque le Napoléon, comme vous venez de l'exprimer, a été déjà par son propre créateur plusieurs fois remanié. Donc, en quoi consiste la restauration d'un film ? D'abord, La première décision que l'on doit prendre, même si ça doit prendre des années, c'est dans quel état nous considérons la référence de l'œuvre. Est-ce que c'est l'état du montage lors de la première projection, avant-première comprise ? Est-ce que c'est l'état de la distribution du film? Je pense notamment à l'Odyssée de Ludwig de Visconti, qui aujourd'hui est visible dans une version qui peut être honnêtement appelée être le Final Cut de Visconti, mais qui n'est pas finalement celle qui est sortie à l'époque. Donc toutes ces questions sont très complexes. Il n'y a pas d'exactitude au niveau de cela, mais il y a des choix. C'est-à-dire que là, pour la restauration d'un film, c'est d'essayer, bien entendu, au plus proche d'être ce que le réalisateur a voulu faire de son film et sous quelle forme. Dans le cas du Napoléon, les choses sont encore plus compliquées. Les choses sont encore plus compliquées parce que quand on m'a appelé en 2008 pour travailler sur le Napoléon, en fait, on ne m'a pas appelé pour faire une nouvelle restauration. On m'a d'abord appelé pour faire une expertise. Donc Laurent Manoni, qui à cette époque-là était le directeur du patrimoine, a demandé à me voir. Il me connaissait par Claude Lafaille, par Marianne de Fleury aussi, qui nous a quittés malheureusement. Et il m'a demandé, texto, est-ce que vous ne pourriez pas mettre votre activité de réalisateur entre parenthèses pendant 3 mois, par exemple, parce que nous ne savons pas quelle version du Napoléon donner à un pays étranger ou une cinémathèque étrangère, parce qu'on a des tas de versions et on ne sait pas quelle est la référence. Donc, pourriez-vous faire une expertise ? Et il était évident que ça ne pouvait pas être quelque chose de plus, puisque, comme vous l'avez très bien dit, le film avait été, par le passé, déjà 5 fois restauré. Quand moi-même, je suis sorti du Palais des Congrès en 1983, en ayant vu ce qu'on appelle la KB2, c'est-à-dire la seconde restauration de Kevin Brunlow, qui donc est la 3e dans l'histoire du film, mais tout le monde était convaincu que la chose était pliée. Quand on est sorti, on avait vu le résultat d'une 20aine d'années de travail. C'était formidable et c'était terminé. Jamais je n'aurais pu imaginer que 25 ans plus tard, le jeune étudiant en cinéma, à Paris 3 d'ailleurs, que j'étais à ce moment-là, alors que j'avais vu au milieu de 3000 personnes le générique qui disait « La Cinémathèque française présente le Napoléon d'Abelgance », je ne savais pas que parmi ces 3000 personnes, en vérité, on était 4400 ce soir-là. Ils ne l'ont pas dit, mais on a vendu les marches. Que je serais une personne qui, un jour, aurait à restaurer une 6e fois ce film. Donc, comment on restaure un film? Alors, je reviens au cas du Napoléon. Laurent Manoni me dit, très bien, ben, ça va être simplement une expertise. Moi, j'avais vu quand même la bête, si vous voyez ce que je veux dire, et surtout la manière dont Bambi Ballard avait travaillé sur le film, absolument sans relâche, mais aussi sans protection. Et que le film, par l'immensité de sa complexité et du travail qu'il demandait, allait être aussi, était quelque chose de toute manière de dangereux. La seule réserve que j'ai mise envers Laurent Manoni, ça a été de dire, écoutez, je veux entre moi et le monstre une équipe, le monstre étant le film. Et vous savez, Laurent, ça ne durera pas que 3 mois. Je pense que l'expertise durera au moins 6 mois. Je me trompais aussi.
Oui, parce que finalement,
alors,
c'est toujours pas fini.
Ben non, ce n'est pas fini. Alors, comment, en quoi consiste la restauration d'un film? Je reviens toujours sur la première question. Ça va être d'abord d'essayer de savoir comment il a été fabriqué.
La question aussi difficile.
Très difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument, surtout, expertiser les originaux physiques. Et quand je parle des originaux physiques, je parle uniquement, par exemple, du 35 mm, hein, je parlerai des archives papier. Mais le 35 mm, certes, pour nous, ce qui est important, c'est l'image. Mais pour moi, ce qui est aussi très important, c'est ce que nous appelons les manchettes. C'est-à-dire la fine portion de pellicule qu'il y a entre le bord de la pellicule et la rangée de perforation. Ce n'est donc pas du tout la partie projetée. Mais c'est dans cet espace de manchettes que les monteuses négatives inscrivaient lors de la construction physique du négatif. C'est là qu'elles écrivaient soit à la pointe sèche en rayant le négatif, soit à l'encre de Chine, qui était indissolvable ou indissoluble, comme vous voulez. C'est là qu'elles mettaient leur référence de numéro de plan. Donc, c'est là que se trouve le guide du montage du film et que si jamais le montage a subi une mutilation, ce qui m'indique que le plan a été coupé, c'est par exemple que je ne retrouve pas sur le bord de la manchette à la fin je ne retrouve pas le rappel du numéro que j'avais trouvé au début. Dans le cas du Napoléon, ça, je vous fais un total, hein, ok, dessus, c'est que nous sommes aperçus, parce qu'en cours de ces 14 ans de travail sur le Napoléon, j'ai été réclamé par la Fondation Jérôme Sédoux-Pathé pour expertiser mondialement tous les éléments de La Roue, qui est le film précédent de Gans, qui date de 1922. Et qui est aussi un chef-d'œuvre. Et nous nous sommes aperçus que la post-production de La Roue a posé beaucoup de problèmes au niveau des travaux de laboratoire, à tel point, par exemple, qu'il n'a pas été possible d'établir un deuxième négatif de sécurité. De gros problèmes techniques. Et c'est pour ça que j'ai avancé l'hypothèse que, à ce moment-là, Gans a dû donc convenir d'une méthodologie de fabrication. Je vous parle de ce qu'on appelle les process, mais enfin, ni plus ni moins, les modes opératoires hein, de l'époque de fabrication. Il a dû convenir d'un autre type de numérotation des plans que celui qui avait eu lieu dans La Roue. Ainsi, par exemple, dans La Roue, les numéros de plans ne sont pas dans les manchettes, mais dans les interimages. Écrit en blanc, enfin c'est sur le négatif en noir, donc, et on les voit un petit peu apparaître à chaque changement de plan. Mais ce numéro de plan, il n'est marqué qu'une seule fois au début du plan. Si jamais le plan a été coupé par un distributeur ou par quelqu'un à la fin, il n'y a rien qui l'indique. Et c'est là où ma monteuse et moi, Laure Marchaud, qui a été indispensable pendant toutes ces longues années de travail, et qui avait d'ailleurs travaillé avec Bambi Ballard en 90, c'est là que Laure Marchaud et moi, nous nous sommes aperçus que pour le Napoléon, il y avait un protocole particulier de numérotation qui était dans les manchettes et après quelques perforations au début, et ce même numéro était répété quelques perforations avant la fin. Et c'est ça surtout sur lequel on s'est rué. Et là, j'attire l'attention sur un grand problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de cinémathèques dans le monde pensent qu'elles sauvegardent leurs films parce qu'elles dupliquent l'image. En vérité, elles ne sauvegardent que la moitié des informations importantes pour une restauration ultérieure, puisque on ne refotographie pas les manchettes sur le 35 mm. Et donc, pour des étudiants aujourd'hui qui seront les chercheurs et les restaurateurs de demain, ils risquent très bien d'avoir entre les mains des pellicules qui représenteront l'image, mais qui auront effacé les importantes informations contenues dans les manchettes, qui étaient le seul lien qui pouvait les rattacher à la fabrication. Ce problème est tel qu'aujourd'hui, quand on fait le retour sur film sur 35 mm, il n'existe, à ma connaissance, aucune machine commercialisée pour refotographier l'image et les manchettes.
Mais du coup, comment est-ce que vous, pour ces pellicules-là, pour votre restauration, comment est-ce que vous arrivez à refotographier les informations dans les manchettes ?
C'est pas qu'on les refotographie. Alors, c'est un petit peu plus particulier. D'abord, nous, on a essayé le plus possible de travailler sur des originaux. Il y a eu aussi une période dans les laboratoires où les tireuses avaient, c'est un petit peu technique, mais c'est facile, les tireuses avaient deux lampes. Ils avaient une lampe pour l'image et une petite lampe sur le côté, 20 cm plus loin, pour refotographier la manchette. Et certaines fois, le technicien a allumé la deuxième lampe ou il ne l'allumait pas. Donc certaines fois, on a des originaux qui sont, comme nous disons, des archives mortes. C'est-à-dire qu'il y a l'image, mais dans les manchettes, il n'y a plus rien. Ou alors, formidable, un contre-type, c'est-à-dire un négatif tiré à partir d'un positif de projection. L'image est en piteux état, elle est absolument dégueulasse, mais quand ça a été sauvegardé en 1970, cette cinémathèque a demandé au technicien d'allumer la deuxième petite lampe. Et donc, certaines fois, je prends l'image dans un élément physique qui est de meilleure conservation, mais dans une archive morte, c'est-à-dire refotographiée sans les manchettes. Mais je sais que cette image fait partie du plan numéro 51 parce que dans telle sauvegarde dont je ne peux pas utiliser l'image tellement elle est de mauvaise qualité, là, j'ai l'information du numéro de plan. Donc, ce sont des recoupements, puisque l'expertise a été au niveau mondial. Ensuite, et ça introduit un petit peu ce vers quoi on va aller, c'est que, disons tout de suite les choses, c'est que quand j'ai commencé à ouvrir les boîtes, je suis à la base réalisateur. Je dois le dire, d'ailleurs, je n'ai aucune formation d'archiviste ou de restaurateur patrimonial, si vous préférez, de restaurateur du patrimoine. En revanche, j'ai une formation scientifique. Et donc, très vite, en ouvrant les boîtes, j'ai commencé à m'apercevoir de l'incroyable imbroglio de toutes ces bobines. Situation créée par Gans lui-même, hein, je le dis tout de suite, on n'est pas dans des défauts d'institution, on n'a pas à faire du cinémathèque ou du CNC bashing, non, Gans avait l'art d'embrouiller les choses et le Napoléon, l'aspect patrimonial de Napoléon est aussi une œuvre de Gans. Et très vite, en tant que réalisateur, je me suis dit, si jamais ça doit déboucher sur une nouvelle restauration, les outils qu'il me faudrait, numériques et physiques, et les process de production qu'il me faudrait pour que cette restauration se fasse, ces outils n'existent pas. Alors, en fait, ils n'existaient pas encore. Quand j'ai commencé à ouvrir les boîtes et à m'apercevoir de cette méthodologie de construction, il faut savoir comment ça a été bâti pour savoir ensuite ce qui a été détruit et ce qu'il faut remplacer. Qu'est-ce que c'est la restauration d'un film ? Je me suis très vite dit, ça, il faut absolument que j'aie un scanner en haute définition, c'est-à-dire 4K, ce qui n'était pas le standard de l'époque. Hein. En 2008, on travaillait encore en 2K. Il n'y avait pas en France un seul projecteur 4K. Il me faut un scanner en 4K, un scanner qui va me scanner l'ensemble de la pellicule, c'est-à-dire les manchettes y compris, ce qui n'existait pas. La Riscan s'arrête au début des perfos.
Donc pas les informations des manchettes.
Et en plus, ça c'est un petit peu technique, mais c'est très simple à expliquer, il me faut un scanner en immersion totale. Ça veut dire quoi, immersion totale ? Vous avez une pellicule qui est un petit peu rayée. Je dis rayée, c'est-à-dire l'émulsion n'est pas entamée, mais par contre elle a des rayures, des frottements sur le support. Alors, aujourd'hui, vous pourriez vous dire, ben, on met un algorithme et puis qui va réparer tout ça. Et excusez-moi pour lui, mais dans ces cas-là, on se retrouve avec le visage de Michael Jackson. C'est-à-dire que l'excès de réparation numérique est tel que ça dénature tellement l'image que ça la dégrade plus que ça ne la restaure. Donc, dès les années 80, est apparu un système argentique très satisfaisant. On s'est aperçu que quand on plongeait la pellicule que l'on voulait refotographier, quand on plongeait cette pellicule dans un bain d'un liquide assez volatile, à ce moment-là, c'était le trichloréthylène ou le perchlore, eh bien, si vous préférez, quand la rayure arrive, ce liquide va jouer le rôle d'une sorte de caméléon. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans les petites fentes, juste avant le selfie, il va prendre exactement la position et le même indice de réfraction que la gélatine qui a été enlevée lors de la rayure, et il va la combler juste le temps d'être immergé. Et au moment, et là, à ce moment-là, vous faites la photographie sur la tireuse, ou plus tard, sur le scanner, vous faites la numérisation. Et au moment, comme c'est très volatile, au moment où le film ressort de la cuve, ben, le liquide s'en va et la rayure réapparaît. Donc il y avait les tirages à sec qui refotographiaient les rayures. Et dans les années 80, on a mis au point le tirage en immersion qui rentre dans les petites abrasures, prend la pose devant le selfie. On prend la photo et ensuite s'en va. Vous n'avez pas d'atteinte physique, mais par contre, vous avez déjà presque 50% des rayures qui sont comblées.
Et ça enlève une partie du travail aussi.
Et c'est un travail qui est physique, vous voyez. Ce ne sont pas des algorithmes qui ont truqué. Donc, ça reste physique. Donc, dès 2008-2009, je me dis, il me faut donc un scanner qui soit en 4K, qui soit de bord à bord avec les manchettes et qui soit en immersion totale et non pas avec la projection de liquide comme certains scanners fonctionnaient. Or, ce scanner, il n'existait pas à l'échelon mondial. En fait, il n'existait pas encore, car depuis quelques années, je suivais par des amis communs la mise au point d'abord par le CNC et puis ensuite par Christian Comte et ensuite le laboratoire Éclair d'un prototype qui s'appelle le NitroScan et qui reste encore aujourd'hui le seul prototype au monde de ce système qui justement a été conçu dès le début pour les archives. C'est-à-dire que c'est un appareil que vous avez vu d'ailleurs en me rendant visite au laboratoire puisqu'il est maintenant chez l'image retrouvée, chez Éclair Classique, place de Clichy. Eh bien, c'est un appareil qui scanne de bord à bord en 4K et qui a ce qu'ils appellent l'aquarium gate, c'est-à-dire que le film baigne dans le liquide. Et nous avons ainsi une richesse de signal à l'intérieur de laquelle nous avons beaucoup de matière. Alors, ça, le NitroScan a été développé, et finalement il n'est rentré en fonction, je crois que vers 2012-2013. Donc vous voyez que 4 ans avant, déjà je me disais, de toute manière, ça serait bien qu'on y mette un certain temps, parce que c'est pas encore prêt. Et comme d'habitude, bon, ben ça c'est assez habituel en France, c'est-à-dire que l'idée, elle a été réalisée en France, mais elle n'est pas développée. Ou elle sera peut-être développée lors d'un rachat brevet étranger. Mais néanmoins, j'insiste sur le fait que l'image retrouvée quand elle a racheté Éclair, il y a quelques années, il y a donc 2 ans, je crois, a tenu à racheter aussi les brevets du Nitroscan, parce qu'ils ont bien compris, cette école de Bologne, qui est absolument extraordinaire, ils ont bien compris l'avantage incomparable de cet appareil par rapport aux autres machines. Donc le Nitroscan me permet quoi? Vous allez me dire, mais alors, vous avez une photo, bon d'accord, vous avez une photo plus large. Non, j'ai une photo plus profonde. Je vais vous donner une métaphore. Ça ne sert à rien d'avoir dans sa culture un sculpteur comme Michel-Ange si vous n'avez pas un très beau bloc de marbre pour qu'il y sculpte son David. Ça ne sert à rien d'avoir des peintres impressionnistes français extraordinaires ou, comme Van Gogh, étrangers, si vous n'avez pas les couleurs en tube. Si on ne donne pas aux meilleurs techniciens du monde la bonne matière à photographier, ils ne peuvent pas travailler. Or, le Nitroscan, non seulement concilie ces 3 aspects, bord à bord, immersion totale et 4K, mais aussi donne une richesse de gris, une variété, une matière photographique très, comme on dit, profonde. En couleur, on parle de profondeur de couleur. Nous allons dire que l'image est très profonde. Or, justement, dans le cas du Napoléon, étant donné qu'il n'y a plus de négatif et que nous allions faire une restauration qui allait être uniquement à partir d'éléments qui avaient déjà été projetés, utilisés, contre-typés, certaines fois de génération numéro 5, bref, on allait être obligé d'harmoniser des textures extrêmement différentes. Donc, il fallait à ces techniciens de premier ordre donner une profondeur de signal, c'est le terme, la plus large possible, afin qu'à l'intérieur de cette profondeur de signal, on trouve une valeur médiane qui rendrait le plan homogène alors qu'il est recomposé à partir de 5 ou 6 sources différentes retrouvées dans le monde. La problématique de la restauration du Napoléon, elle doit répondre à 2 questions. Défragmenter le film, puisque comme vous l'avez un peu dit au début de votre introduction, le film a été explosé dans tous les sens, et nous verrons que lors de mon travail, j'ai découvert qu'il avait été encore plus explosé qu'on ne le pensait. Et ensuite, il faut homogénéiser les textures, parce que ce n'est pas tout de reconstruire, mais il faut aussi ne pas se retrouver avec un film Frankenstein. C'est là que diffère la restauration du film de la restauration des bâtiments. Dans les bâtiments, on a pris pour principe de montrer quand même que la pierre que l'on a remise ou la colonne que l'on a refaite a quand même été refaite. Mais elle a une forme voisine qui fait que quand vous regardez l'édifice, vous pouvez voir un peu quand même les parties restaurées de ce qui restait. Dans le film, nous ne pouvons pas pratiquer comme ça. Davide Pozzi, qui est le directeur de l'image retrouvée et donc de Éclair classique, a la très belle métaphore suivante. Il dit « Quand je lis un livre et qu'il y a des notes pendant le texte, ou je m'arrête à chaque note et je vais en bas pour les voir, ou je passe les notes et je continue à lire le texte. Mais je ne peux pas lire un livre en m'arrêtant à toutes les notes. » Donc, dans le cas d'un film, nous devons rester dans l'univers filmique, nous devons rester dans l'histoire, et donc nous n'avons pas à laisser apparaître qui ou quelle partie a été restaurée ou remplacée.
Question très intéressante, parce que d'où est-ce qu'on repart, du coup, pour la restauration? Parce qu'on part, est-ce qu'on repart des traces qui ont été laissées? Est-ce qu'on repart, par exemple, des anciennes restaurations et on voit ce qui a été fait? Ou est-ce que vous oubliez totalement les restaurations qui ont été faites avec notamment Epstein, Langlois, Brownlow et Ballard?
Kevin, bien sûr.
Ou est-ce qu'on repart à zéro et on essaye de voir ce qui reste dans les boîtes et,
Alors là, vous allez comprendre comment, à partir d'un certain moment, il y a un gouffre. s'il n'y a pas d'autre terme, il y a un gouffre qui s'est ouvert sous nos pieds. C'est-à-dire que 2008-2009, bon, je vais très vite, mais au début, il y avait 250 boîtes à la Cinémathèque française, et puis ensuite, ce qu'on appelait à cette époque-là les AFF, c'est-à-dire les collections films du CNC, a tiré un peu la manche de la Cinémathèque française en disant, ben, est-ce que votre expert ne pourrait pas faire la même chose avec notre stock, parce que nous non plus, nous n'y comprenons rien. Et donc, de 300 boîtes, on est passé à 300 boîtes en plus, c'est-à-dire 600 boîtes. Et 15 jours avant de rendre ma première expertise en mars 2008, nous avons retrouvé au CNC un lot de 179 boîtes qui n'avaient pas été ouvertes depuis 1971.
En plus des 300.
En plus des 600 en tout.
Oui, 600 en tout.
Voilà, ok. De... Et cette même première découverte de 179 boîtes, grâce à Claude Lafaille, mais ça je le raconterai dans mon livre parce que sinon je vais pas m'arrêter à la radio, c'est toute une odyssée. Grâce à cette découverte, c'est là que j'ai découvert que Claude Lafaille avait caché, on va dire sauvegardé, 203 boîtes à la Cinémathèque de Toulouse, elles non plus pas ouvertes depuis 1971. Donc, du coup, on s'est retrouvé, alors qu'on pensait avoir terminé l'expertise, on s'est retrouvé devant presque 1000 boîtes. Dont presque 400 qu'il fallait expertiser en plus. On ne pouvait pas se prononcer sur une expertise définitive tant qu'on n'avait pas aussi vu ça. Alors ça, c'est 2008, 2009, 2010. Et puis, si on veut l'anecdote, ça s'est passé une nuit chez moi, puisque on avait l'habitude avec Laure Marchaud de ne faire passer les originaux qu'une seule fois sur la table de montage pour ne pas les fatiguer, et on les filmait. Donc on a fait plus de 400 captures sur table. Donc elles étaient donc dématérialisées. OK, sous forme de fichiers vidéo. Et je me souviens très bien, lors de l'été 2010, je me suis levé en ayant l'idée de faire une chose qu'aucun de mes illustres prédécesseurs n'avait pu faire, c'est-à-dire ouvrir 6 fichiers QuickTime en même temps, sur mon ordinateur. C'est tout bête. C'est tout bête. Et j'ai essayé de progresser plan à plan à l'intérieur d'une scène. Et je me souviens, c'était sur l'assassinat de Marat, avec Antonin Artaud dans le rôle de Marat. Et là, je me suis aperçu que, tiens, les plans n'étaient pas les mêmes. Mais ils semblaient appartenir à deux groupes différents. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Parce que pour éviter l'usure des négatifs, pour les tirages des copies, on avait tendance, au temps du muet, à établir plusieurs négatifs. Je crois que pour Le Dernier des Hommes de Murnau, je crois qu'il y a eu jusqu'à 5 négatifs établis. On faisait ça avec des prises tierces, la seconde prise, ou retournée, ou avec une caméra qui tournait en même temps, et ça faisait des négatifs. Mais ces négatifs étaient équivalents dans leur choix artistique. Là où on est descendu de plusieurs étages, où on est monté d'un seul coup de plusieurs, c'est que je me suis aperçu qu'il existait à l'origine deux négatifs. On va dire un négatif pour la version courte, dite opéra, celle d'avril 27 dont vous avez parlé, et un autre négatif qu'on appellera le négatif Apollo, qui correspond à la version qui a été présentée pour les diffuseurs, les distributeurs et les journalistes en mai 27. Et que si j'arrivais à faire des regroupements et des identifications les uns par rapport aux autres, eh bien malheureusement pour nous, ces négatifs n'étaient pas équivalents. Les choix dramaturgiques n'étaient pas les mêmes. Les cadrages n'étaient pas les mêmes, même les nombres de surimpressions. Donc on a presque l'impression que Gans, c'est une hypothèse que je soulève, on a presque l'impression que Gans, dans la version opéra, a essayé de mettre la barre à un certain niveau pour dire on va voir si le public suit. Mais en vérité, je garde les boosters et les fusées et les missiles pour la version Apollo. De tradition orale, Jean Dréville ou Marie Hempstein, que j'avais connu grâce à Bambi Ballard, m'avaient dit que la version Apollo était bien meilleure que la version opéra. Mais je pensais que la version, comme tout le monde, nous pensions que la version Apollo n'était ni plus ni moins que la version opéra allongée de scènes différentes. Là, ce que je découvre en 2010, c'est que ce sont des négatifs différents et les choix dramaturgiques, ce sont deux films différents. Et c'est là où nous avons frémi, où j'ai frémi d'abord, c'est que ça voulait dire que tous mes illustres prédécesseurs avaient, en toute bonne foi, mélangé indistinctement la version opéra et la version Apollo. Et c'est pour cela qu'on s'est aperçu qu'il était obligatoire de faire une nouvelle restauration et que, malheureusement pour nous, nous ne pouvions capitaliser sur aucune précédente restauration. Il fallait donc tout reprendre à zéro, quitte même à ce qu'il y ait dans la corbeille des tas d'éléments auxquels les restaurateurs précédents n'avaient pas eu accès.
Donc on en arrive à une nouvelle restauration, partant de zéro, et là on... Quelle version vous essayez de faire ?
Ça ne va pas si vite, ça ne va pas si vite que ça. D'abord, il y a pendant 7 mois, octobre 2011 à juillet 2012, il y a je fais une reconstruction en Final Cut Pro, avec les captures sur table. Je fais un premier remontage du film et j'arrive à 6h30. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs pourront s'y retrouver, mais... certaines fois, il y a une scène, par exemple, notamment Brienne, je suis obligé d'utiliser 14 sources différentes pour retrouver... Pour faire juste la séquence de Brienne.
Partez, par exemple, de plusieurs éléments, un élément de Paris, un élément de Bologne, un élément...
De Belgrade, un élément de Copenhague, un élément de trucs, parce que tout ça, il a fallu aussi battre le rappel des cinémathèques étrangères, qui d'abord nous ont envoyé des DVD, et puis ensuite nous ont envoyé les éléments physiques. Donc, avant même qu'il y ait ces éléments physiques, rien que sur les captures DVD, moi, j'ai travaillé 7 mois en montage sur 14 sources différentes. Alors, ceux qui sont peut-être un petit peu réalisateurs sauront ce que je veux dire quand, sur un sitcom, on travaille, comme on dit, en cross-border, c'est-à-dire qu'avec, par exemple, 8 caméras sur le plateau, et puis on monte en même temps. Les monteurs savent combien ça demande énormément de travail et de concentration. Moi, je l'ai fait avec 14 sources différentes en progression, en progressant pas à pas et plan à plan. Donc, ça a été un travail qui m'a laminé, hein. Je vous dis, ça m'a crevé, mais ça nous a donné une idée de ce que pouvait être la forme originelle de la grande version. Et là, à partir de ce moment-là, on a fait venir les copies internationales. Et de ce point de vue-là, je fais un petit flashback, c'est que Claude Lafaille, qui m'avait ouvert les archives privées de Gans du temps de mes études cinématographiques en toute confiance, et c'est ça l'origine de notre grande amitié qui dure encore, Claude Lafaille du temps de mes études m'avait remis un inventaire mondial des œuvres de Gans qu'il avait fait lui avec Abel Gans lui-même, vers 1976 je crois. Donc, je savais déjà en 1976 ce que les cinémathèques du monde avaient à cette époque-là. Et en 1989, lors du centenaire de la naissance d'Abel Gance, avec Clarisse Gance, nous avons fait à nouveau un autre inventaire mondial. C'est-à-dire que nous avons écrit à toutes les cinémathèques du monde pour leur dire « qu'est-ce qui reste de l'œuvre de papa ?» Donc j'avais déjà ces éléments. Ensuite, il y a eu la FIAF, c'est-à-dire la Fédération Internationale des Archives du Film. Mais tous les conservateurs ne savent pas tout ce qu'ils ont.
Oui, c'est un fond impressionnant et où on n'arrive pas, quand on met le doigt dans l'engrenage, on ne s'arrête plus.
Exactement, parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est que l'opacité des fonds des cinémathèques du monde entier, ce n'est pas une incurie des institutions, ça vient simplement du droit de la propriété de l'auteur. C'est-à-dire que jusqu'à la loi Lang de 1985, je crois de juillet 85, le réalisateur n'était pas considéré comme un auteur, c'est-à-dire comme un droit imprescriptible. Ce qui veut dire que si jamais une boîte de production, je prends un exemple qui n'a pas existé, mais Walt Disney fait un remake soi-disant de La Belle et la Bête, il veut éviter qu'au moment où il va sortir La Belle et la Bête en France, on ressorte le film de Cocteau, et bien à cette époque-là, le nouveau ayant droit avait le droit de demander à toutes les cinémathèques, vous me filez toutes vos copies parce que c'est moi qui suis l'ayant droit et je les détruis. C'est pour ça que beaucoup de réalisateurs faisaient des dépôts secrets et qui certaines fois, quand le conservateur changeait, restaient secrets.
C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai que...
Et ça se tient.
D'où les copies cachées du Napoléon à la Cinémathèque de Toulouse.
Et voilà. C'est surtout que Claude, en fait, pour dire les choses plus précisément, j'ai eu le souvenir qu'un jour, je rentre dans le bureau de Claude, au CNC, donc, et je vois Claude vert de rage. Comme c'est quelqu'un de très calme, généralement, je lui dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» etc. Et il raccrochait son téléphone, il me disait « Tu te rends compte, ils vont détruire plus de 200 boîtes du Napoléon. » Je lui dis « Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes ?» Non, mais enfin, détruire, il fait partie de ces personnes qui, n'étant pas spécialistes ou experts, disent « On ne détruit rien. » Et finalement, il a raison. On ne détruit rien. Et quand j'ai vu le bordereau de dépôt des 179 boîtes, J'ai vu que sur le bordereau, il y avait marqué que le dépôt originel était de 484 boîtes. Donc j'ai demandé au CNC, mais alors où sont passées les autres ? Et l'on m'a dit, ce qui est tout à fait logique, ben vous savez, à cette époque-là, soit on a réduit à l'intérieur de différentes boîtes, soit on a détruit des doublons aussi, parce que tout ça, ça prend des places, etc. Très bien, mais moi j'ai dit, attendez, il faut que j'aille voir quelqu'un, parce que Yamamoto Tsukayu, il y a quelque chose là-dessus. Et c'est là que je suis reparti voir Claude Lafaille, donc peut-être 25 ans après mon entrée dans son bureau, et je lui dis, maintenant Claude, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait ? Et c'est là qu'au bout d'un quart d'heure de petite torture amicale, il m'a dit, écoute, voilà, on est allé avec un tel, je ne me souviens plus de le nom, c'était un dessinateur de bande dessinée très célèbre, mais enfin, il avait un break. Alors, officiellement, elles sont parties à la destruction, mais on les a planquées. Et vous les avez planquées où ? Eh bien, à Toulouse. Et à Toulouse, ils le savent. Bah, voilà. C'est comme ça, le monde des archives, c'est ça aussi. Donc, du coup, on s'est retrouvés avec plus de 1000 boîtes, des années de négociations, pas contractuelles, mais de sécurité. Par exemple, la copie de Belgrade, il a fallu qu'on aille d'abord l'expertiser sur place, Laure Marchaud et moi-même. Et c'est ensuite, puisque la Serbie ne fait pas partie de l'Europe, il a fallu ensuite faire passer la copie, qui était en nitrate, en état assez instable. Il a fallu presque 2 ans pour l'amener au Fort de Saint-Cyr, à la Cinémathèque française. Donc, il a fallu réunir le trésor mondial Napoléon. Et là, ensuite, on s'est lancé dans l'expertise physique. Et là, on a regardé les manchettes, alors qu'on nous avait envoyé que des DVD qui nous donnaient que l'image. Et là, à partir de ce moment-là, alors, on a pu commencer une véritable reconstruction. On va dire que la restauration est vraiment décidée vers... Elle est annoncée publiquement en 2015, en janvier 2015. Mais elle va avoir des développements, des incidents, et notamment le laboratoire Éclair vont connaître 2 plans sociaux. Et puis aussi, il va y avoir des problèmes de fermeture de certains box de conservation qui vont rendre inaccessibles certaines choses. Et puis surtout, c'est que le Napoléon est dans un tel état qu'il faut inventer de nouveaux outils, notamment ce qu'on appelle les luttes colorimétriques. Il y a 2 ingénieurs R&D de chez Éclair qui ont travaillé sur 2 ans, Nel Cizami et Lucas Boubel, qui ont travaillé 2 ans sur la mise au point des rendus colorimétriques des teintages et des virages. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Il a fallu mettre aussi au point le tuilage de la production, c'est-à-dire à quel moment on vérifie quoi et comment on va faire pour homogénéiser toutes les textures. En un mot, si vous préférez, nous l'avons divisé en 25 films, en 25 séquences. Quand on dit qu'il a fallu 15 ans ou 14 ans pour restaurer le Napoléon d'Abel Gance, il faudrait peut-être plus dire qu'il a fallu 14 ans pour restaurer 25 films.
Comment Gance pense le montage de son film ?
Alors, c'est même presque comment Gance pense le montage. C'est-à-dire que Gance est, pour ainsi dire, le fleuron de tout un mouvement dans le cinéma français de cette époque qu'on appelle l'impressionnisme français, qu'il ne faut pas confondre, bien entendu, avec l'impressionnisme pictural qui aura existé quelques dizaines d'années avant. Cet impressionnisme français, les tenants, c'est Louis Deluc, Jean Epstein, Germaine Dulac, Marcel Lherbier, bien entendu, mais même Henri Fescourt dit que le chef de file est celui qui a le plus d'audace, et on dira aussi de génie, c'est quand même Gance. Donc, ces personnes-là, à la limite, c'est Germaine Dulac qui disait que le premier écueil que le cinéma aurait à surmonter pour devenir un art serait sa nécessité d'avoir à raconter une histoire. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu comme en musique. Vous avez ce que l'on appelle de la musique descriptive, qui est une très bonne musique. Regardez l'apprenti sorcier de Paul Dukas. OK. Vous avez le thème de ceci, le thème de cela, etc. Puis vous avez des musiques qui sont, on va dire, des musiques à part entière, qui ne transforment pas une réalité dans une partition musicale, qui sont directement des mouvements de sentiments. Nous allons dire que le montage dans l'impressionnisme français va essayer pendant 10 ans, jusqu'à ce que finalement il soit décapité par l'arrivée du parlant, il va essayer pendant 10 ans de faire ce qu'on appellera un cinéma pur, c'est-à-dire un mouvement d'image, un mouvement de sensation, un mouvement d'idée pour certains. Pour Gans, ça sera plutôt un mouvement du cœur, un mouvement de sensation. Et c'est pour ça qu'il avait ce très beau mot où il disait « Le cinéma, c'est la musique de la lumière ». Donc, il a une approche, non pas formaliste, mais il veut atteindre chez le spectateur le cœur sans passer par l'intellect. Et son montage est un montage qui, certes, est fait d'images qui nous montrent une situation, mais il ne faut pas se laisser prendre par ça. Il faut écouter les images, il faut écouter le mouvement, car je vous rappelle que de tous les arts, le cinéma est, avec la musique, le seul art chronologique. La statue est à un temps T0, la peinture est à un temps T0. L'écriture, un peu, a le côté chronologique, mais c'est la musique et le cinéma dans lequel les soubresauts vont donner des sensations. Gans a cette approche du montage, c'est-à-dire une musique de lumière, qui doit dépasser dans son expression la simple représentation d'une réalité. Comme disait Jean-Christophe Averty, on est où vous voulez, mais sûrement pas dans un bureau de notaire qui enregistre des actes.
Et alors pour cela, nous allons écouter Abel Gance lui-même, qui lors de la première restauration de Cueil de Brunelot en 1979, était sur scène pour voir cette restauration-là et parlait avant la projection,
oui.
Évoquait justement cette musicalité dans son montage et dans son film.
Exactement, ce document m'a été remis par Tom Ludy, qui est l'un des cofondateurs du Festival de Telluride, et j'insiste bien sur le fait que, pour une raison encore indéterminée, alors qu'il est sur scène, après la projection d'un documentaire sur lui, dans lequel il a vu des extraits du Napoléon, à Belgans, on ne sait pas pourquoi, pique une crise de colère alors qu'il a 90 ans. Tout le monde pense qu'il est en train un petit peu de péter un câble, etc. Puis en vérité, j'insiste bien, il ne parle pas de la restauration de Kevin.
Il ne l'a pas vu.
Il ne l'a pas vu à ce moment-là, mais il a vu dans ce documentaire des extraits de Napoléon, de quelle version, on ne sait pas. Et il va avoir une réaction de colère qu'on va entendre et qui, pour nous, va avoir une très grande signification pendant ces années d'expertise.
C'est comme de la musique pour moi, le cinéma. S'il manque 4 images à un plan, je le recommencerai 10 fois. S'il y en a 4 de moins, c'est la même chose. C'est comme en musique, c'est d'une précision mathématique. Et ce qui a fait probablement mon succès dans mes films, c'est la précision de la mise en scène, la précision des images. Et chaque plan à 2 images près, je le rejetais. Imaginez 10 mesures de Brahms, 3 de Debussy, 40 d'un mauvais musicien de Paris.
Imagine 10 measures of Brahms, 3 of Debussy, and then 40 by some terrible composer from Paris.
Et voilà le résultat. C'est que le musicien, s'il s'appelle Wagner, il est confondu avec un musicien de 10e ordre des boulevards de Paris. Et puis, il dit, c'est ça ma musique, c'est pas possible. Ou c'est moi qui suis fou, ou l'orchestre s'est trompé. Et ben voilà l'impression que j'ai.
And the result is, imagine mixing Wagner with the most 10th-rate boulevard musician of Paris, and the two are put together, and one doesn't know which is the other.
Nous venons d'écouter donc cette colère d'Abel Gance. Est-ce que vous voulez réagir à cette colère ?
Ben, je vous dirais que j'en frissonne encore, parce que Laure Marchaud et moi, pendant des années, nous avons, pour paraphraser Abel Gance, en observant cette différence entre les négatifs Opéra et Apollo, nous avons constaté cette différence. Nous n'avions pas de preuves scientifiques, ni même d'indices vraiment probants. Et donc, pour paraphraser Gance, nous avons avancé dans notre nuit, mais nous avons éclairé derrière nous. Et quand, pendant 3 ans, nous avons donc travaillé dans ce sens qui n'était qu'une hypothèse, à chaque boîte nouvelle que nous ouvrions, nous avions peur que ce que nous allions expertiser dans cette boîte allait détruire cette hypothèse de base que réellement Opéra et Apollo avaient été mélangés. Quand Tom Ludy m'a envoyé ces images et permettre d'entendre cette révolte de Gans, eh bien, nous avons eu confirmation que notre intuition serait la bonne. Plus tard, nous avons trouvé des preuves scientifiques, hein, okay. Mais ça a été formidable parce que finalement, Dès qu'on a vu ces images, Laure Marchaud et moi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une des précédentes restaurations et nous avons regardé une scène. Et nous regardions un plan et là, on se disait « Ah, ça, c'est Apollo. Ça, ce plan, il vient celui-là, il vient de l'opéra. Il vient de l'opéra. Là, Apollo, opéra. » Comme on aurait pu dire « Ça, ça vient de Brahms. Brahms, Debussy, Debussy, Brahms. » Et ça rejoignait exactement l'hypothèse d'expertise que nous avions découverte par simple observation et comparaison quelques années plus tôt. Et puis, bien plus tard, ça date de 2014, c'est vers 2016 seulement que, grâce au fait de retrouver des amorces d'un négatif qui avait été décomposé, mais sur les amorces, les monteuses mettaient les images qui allaient avoir lieu plus tard dans la bobine. Et quand nous regardions les images, selon notre système déductif, c'était évident que c'était la version opéra qu'il y avait. Et sur les amorces, il y avait refotographié la fameuse inscription à l'encre de Chine de la monteuse qui disait « Brienne, prologue, partie 1, version opéra ». Et là, je peux vous dire qu'on a poussé un soupir d'une tension qui durait chez nous depuis plus de 5 ans. Et nous savions que nous avions raison.
Refaire la grande version de 1927 de Napoléon d'Abel Gance vous impose de repartir de zéro en essayant de comprendre d'où venaient les plans dans les anciennes restaurations, si c'était des plans Apollo ou des plans de la version opéra. Donc tout cela, en fait, vous engage dans un processus totalement nouveau, parce que vous êtes la seule restauration, en tout cas, qui essaye de refaire la grande version de novembre 1927.
C'est cela, c'est-à-dire que avant la restauration, il va y avoir la reconstruction.
Voilà, c'est ça. Et c'est cette reconstruction-là qui prend longtemps et qui prend un temps minutieux pour comprendre d'où viennent les plans, comment ils s'agencent entre eux et comment réinterpréter, en tout cas comment reconstruire les séquences, pas réinterpréter parce que du coup ça a déjà été interprété, comment reconstruire la séquence d'origine. Et nous allons comprendre dans la seconde partie de l'entretien avec Georges Mourier que vous retrouverez la semaine prochaine, nous allons comprendre comment Abel Gance crée un nouveau langage cinématographique pour son Napoléon, pour qu'il puisse toucher en son cœur le spectateur, pour pouvoir passer par les sensations, pour pouvoir passer par le rythme et pour pouvoir passer par l'affect sans passer par l'intellect.